Le goût du monde. Clémence de Navis.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde. Posez-vous juste un instant. Inspirez. Que sentez-vous? Dans quel parfum êtes-vous? Dans quelles odeurs? D'herbe, de cuisine, la fraîcheur de la nuit ou bien la torpeur qui s'efface? Quelle est l'odeur qui vous entoure? Une pause et voici les récits qui s'entremêlent. Les mondes qui se confondent, la voix prend le parfum de l'odeur qui vous entoure. Un même moment, où que vous soyez, un moment au parfum différent, universel. N'est-ce pas là la force de l'odeur? Bonjour Ryoko Sekiguchi.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Vous êtes écrivaine, traductrice, poétesse, gourmette. Créatrice d'épices et d'odeurs, elles sont capturées et prêtes à se déployer dans votre dernier livre, publié aux éditions POL, L'appel des odeurs. C'est son titre. Et il s'ouvre ce livre sur le récit d'odeurs notées dans des carnets d'odeurs, comme les carnets de recettes, des carnets d'odeurs. Comment est né ce livre?
Il est né à partir de plusieurs choses. Donc, c'est évident que depuis un moment, enfin, j'étais intéressée par les odeurs. Et je pense que comme beaucoup de gens qui travaillent sur la cuisine, autour de la cuisine, parce que le goût et les odeurs, les parfums sont vraiment inséparables. Mais il y avait, bon, bien sûr, un incident vraiment important, enfin, qui fait que pendant le Covid, comme malheureusement beaucoup de gens, en fait, j'ai perdu l'odorat pendant bien un mois, mais entière, et ensuite rééducation pendant plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup noté, en fait, sur l'absence des odeurs. Je me suis rendu compte, mais vraiment de l'importance, même plus qu'importance, en fait, la part essentielle de l'odorat dans ce monde. Et puis, j'ai beaucoup lu sur l'odorat.
Autour des odeurs, sur l'odorat. Ouais. Est-ce que c'est le manque de l'odeur qui vous a souligné justement son importance?
Oui, je pense. Vous savez, en fait, parfois, par exemple, la perte de quelque chose, que ce soit un objet ou via une personne chère, appelle omniprésence. Par exemple, suite au départ définitif de quelqu'un, on est toujours à la recherche de l'ombre de cette personne, mais où que qu'on soit. C'était pareil, en fait, lorsque j'ai perdu l'odorat, j'ai pensé que tout ce que je vois avait une odeur. Donc, non seulement la chaise, la table, mais aussi la colère, la tristesse, en fait, la musique. Je pensais que tout ce qui existe dans le monde avait une odeur.
Tout avait un écho olfactif, tout à coup. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous notez toutes les odeurs. Est-ce que cette démarche de noter impliquait aussi la description de l'odeur? Parce que c'était une notation très sensible, très, très explicative, pour pouvoir retrouver si jamais la perte, cette anosmie, survenait à nouveau?
Oui, bien sûr. En fait, j'avais très très peur, surtout en fait pendant que je n'avais pas d'odorat, de ne plus retrouver, parce qu'il n'y avait aucune assurance de le retrouver. Et aussi, j'avais surtout peur de d'oublier ce qu'était une odeur. Et donc, je ne cessais de décrire sur les odeurs comme une sorte de talisman, comme si les mots pouvaient retenir ou bien rappeler les odeurs d'un moment d'un moment.
C'est caractéristique d'une odeur. Alors, ça m'a amusée parce que quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à Pérec.
Ah,
à Georges Pérec. Pourquoi? Eh bien, parce que lui, ce n'était pas des odeurs qu'il écrivait, mais bien des impressions et des souvenirs en remontant la rue de son enfance, la rue Villain. Et pendant 12 ans, il s'est envoyé des lettres sur lesquelles il consignait les souvenirs et les impressions face à une adresse, un moment. Ça s'appelle un projet qui s'appelle Le Lieu.
Pour l'instant, ça s'appelle Les Lieux. C'est un travail qui est dans le temps. J'ai choisi des lieux à Paris, 12 lieux. Et chaque mois, je décris un lieu. Je vais à cet endroit-là et je le décris. Je le mets dans une enveloppe et je scelle
toutes
l'enveloppe.
Ces enveloppes.
Oui. Ici, j'écris le Place Jussieu, janvier 69. Ça, c'était la première description que j'ai faite. C'était un souvenir de la Place Jussieu. J'ai mis un seau avec de la cire. Premièrement, les lieux vont changer. Deuxièmement, moi, je vais changer. Oui. Et troisièmement, mon écriture va changer. Donc, il y aura trois vieillissements, trois transformations, trois usures ou trois modifications. Et quand j'ouvrirai ces enveloppes à la fin, en 1980, en 82, j'aurai enfermé des bribes, des sortes d'archives un peu
hétéroclite
et quotidienne.
J'ai eu le sentiment que c'était un peu ça que vous aviez fait aussi.
Oui. Non, mais ça me fait très plaisir que vous évoquez Pérec, bien sûr, et puis aussi dans la façon de construire un livre aussi. Mais juste une différence, c'est que contrairement à ce qu'on a tendance à penser, je pense que l'odeur est non seulement reliée au passé, mais aussi elle peut être reliée à l'inconnu, à l'imagination, parce qu'on peut aussi imaginer l'odeur de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Licorne qu'on n'a jamais rencontré, un pays où on n'est jamais allé.
Odeur, ce mot, qu'est-ce qu'il évoque chez vous? Parce que sa sonorité, elle est particulière aussi. Il a quel parfum, ce mot?
Ah, c'est vrai que... Quelle est l'odeur de l'odeur? Ah oui, alors je pense que c'est l'odeur de l'odeur et à la fois, ça contient tout, mais en même temps très fugace et qui change à tout moment. Elle est kaléidoscopique.
Ouais, elle est difficile à définir. Alors j'ai regardé quand même dans le dictionnaire.
Ouais.
Dans la définition que j'ai trouvée, il est dit tout simplement, c'est la première phrase, il s'agit d'impressions particulière que certains corps produisent sur l'odorat pour leur émanation volatile. Mmh. On est dans quelque chose de totalement fluctuant dans cette odeur. Et la sonorité, odeur.
Oui.
Elle vous fait penser à quel type d'odeur, justement?
Ça fait penser plutôt à quelque chose qui est un peu terreux, qui est un peu ancré. En fait, contrairement à cette image volatile, la sonorité d'odeur n'aurait pas quelque chose comme une sorte de terre, par exemple au Mali, juste après une pluie, au premier moment de la saison de la pluie, oui. Par exemple.
Et la jacinthe. Si, au printemps, à Nowruz, en Iran.
Oui, voilà.
Et justement, souvent, en fait, dans cette émission, je m'amuse à un jeu. Peut-être que vous voulez jouer aussi, d'ailleurs, Yoko.
Ouh.
Souvent, je demande aux invités de fermer les yeux.
Oui.
Et de nous emmener, en dehors de ce studio, nous emmener dans un endroit qu'ils aiment bien et nous décrire l'heure qu'il est, avec qui ils sont, quelle est la température, qu'est-ce qu'on sent.
Alors, je pense que le moment où j'aime bien sûr le plus, c'est l'hiver, mais chez moi, j'aime beaucoup cette arrivée de l'hiver dans mon appartement, parce que bon, il est bien chauffé, il est bien lumineux, toutes les conditions là pour pouvoir écrire. Je suis dans ce cas-là plutôt toute seule, mais pas toute seule, parce qu'il est très animé par les présences fictives imaginaires. Et il y a peut-être l'odeur du thé chaud.
Merci de vous être prêté au jeu. J'aime bien cette idée dans la description des odeurs aussi. Cette description, elle est entièrement subjective.
Mais subjectif, moi je suis pas d'accord, parce que à partir du moment où on décrit quelque chose avec les mots, il doit être partageable et partagé, n'est-ce pas? Les mots, pourquoi ça existe? C'est pour communiquer, comme l'odeur est une présence communicative. Donc souvent on me pose la question, pourquoi écrire sur les odeurs? Il est très subjectif, on ne peut pas partager. Mais dans ce cas-là, même ce qu'on voit, le rouge qu'on voit, est-ce qu'il est le même rouge que ce que voient les autres? Donc tous les sens sont subjectifs, mais en même temps universels.
Cette odeur... Moi, j'aime bien, en fait, votre livre pour ça, cette odeur et les voyages qu'il permet, votre livre. Il est jalonné de questions, jalonné de positions. Vous l'avez dit, d'ailleurs, toutes ces questions qui vous ont été posées au gré de l'écriture, que vous vous êtes posées. Je reviendrai juste sur l'anosmie à un moment. Le fait d'avoir perdu l'odorat, vous qui écrivez sur la cuisine.
Ah oui. Alors, contrairement à l'image de l'anosmie, bien sûr, en fait, je me suis posé plusieurs fois la question, parce que j'avais une hantise de perdre l'odorat, avant même de perdre l'odorat, que ça va être bien embêtant, parce que de ne pas pouvoir sentir les odeurs de plats que je suis en train de goûter. Ouais, bon, c'était embêtant, mais ce qui était le plus embêtant, c'est de ne pas me sentir, pas sentir son propre corps. C'est quelque chose de presque tragique. Moi, j'avais l'impression de devenir vraiment un carton-pâte. Et j'ai conversé avec quelqu'un qui écrit, mais qui a définitivement perdu l'odorat, et qui m'a confié que c'est quelque chose d'inconsolable, et que depuis, elle ne peut plus écrire. Et c'est ce témoignage aussi, en fait, qui m'a fait comprendre que l'odeur est un sens qui nous relie à l'imaginaire. Vous savez, par exemple, la vue nous relie à l'autonomie. C'est parce que qu'on voit que qu'on peut prendre le métro tout seul, qu'on peut marcher tout seul, qu'on peut lire tout seul. Quand on perd la vue, on a besoin des gens, mais on ne perd pas le lien social qui est le cas de lui. Si on perd lui, on perd les liens sociaux.
Mais, parce qu'on est coupé des autres.
Voilà, mais que qu'on ne perd pas l'autonomie. Le sens, si on le perd, on ne perd ni les liens sociaux, ni l'autonomie. C'est aussi pour ça que qu'on a l'impression que l'odorat est un sens bien inférieur que les autres. Mais en fait, non. L'odorat nous relie à l'imaginaire, à l'histoire, au rêve.
Et livre surtout absolument à l'imaginaire. D'ailleurs, quand on pense aux fumées dans les histoires et dans les contes, ces odeurs qui se dégagent,
voilà,
qui peuvent parfois être inquiétantes d'ailleurs. Elles sont synonymes parfois de pièges dans les histoires, les odeurs.
Oui, bien sûr. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que dans bien des cultures et des civilisations, et depuis l'Antiquité, on envoyait souvent les encens, le parfum, pour être justement en communion, ou bien pour avec les dieux, pour envoyer les messages à l'au-delà. Et donc, non seulement, donc ça, elle nous relie à l'imaginaire, mais aussi elle nous relie à l'au-delà, elle nous relie au monde spirituel. Donc, en fait, ce sont nos messagers.
C'est des vecteurs.
Ouais.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.
Loba du Camerounais Big Bassi, un des titres de l'album Madiba, un cinquième album dédié à l'or bleu, à l'eau donc. Il est sur la playlist de RFI, concocté aux petits oignons et mitonné pour vos oreilles, avec Ryoko Sekiguchi, poétesse, traductrice, autrice, notamment de L'Appel des odeurs, publié aux éditions POL. Nous parlons donc de ces odeurs qui nous rattachent au monde beaucoup et aux autres. J'avais une autre question linguistique. dans l'odeur, on peut parler aussi de ressentir. Quelle impression vous donne le terme ressentir ?
Ah, ressentir, je pense qu'il y a le verbe ressentir réunit plusieurs sens. Parce que ressentir, ce n'est pas seulement l'odeur dont il s'agit. Aussi, il y a notre presque sixième sens. C'est le corps aussi qui sent. C'est le corps qui, en fait, devient une sorte de réceptacle. Et avec lui, avec la vue, avec le toucher, et qui se regroupe pour accueillir quelque chose qui vient du monde extérieur.
Ressentir, c'est un beau mot.
Ouais, j'adore.
Je voudrais que vous me parliez un petit peu d'une odeur de votre enfance.
Ah oui.
Et qui vous suit toute votre vie, puisque vous écrivez, c'est l'odeur de l'encre.
Ah, quelle belle odeur, je trouve. Parce qu'en fait, c'est l'odeur qui est prometteuse. Et donc, quand je sens l'odeur de l'encre, je sens tout un monde, tout un livre venir. Et c'est vrai que j'étais bercée, en fait, par cette odeur. Parce que la maison où j'habitais quand j'étais petite se trouvait dans le quartier des éditeurs, où se trouvaient aussi, bien sûr, les imprimeurs. Donc, au moment de l'impression, il y avait cette odeur tellement caractéristique du papier un peu mouillé par l'encre.
Je me demandais, on parlait de fiction.
Ouais.
L'odeur nourrit la fiction, elle nous emmène sur des chemins.
Ouais.
Et parfois, elle va la bloquer. Je vous propose d'aller dans le bureau de l'écrivain libanais Wadi Mouawad. Richard Guettet, dans son podcast Bookmakers, lui a demandé de décrire le bureau. Voilà ce qu'il raconte.
On sent une différence quand on rentre dans ce bureau et qu'on ferme la porte, dans le silence qu'il a, comme s'il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que l'écriture. Et tout le reste, les livres, les coins, etc., tout ça est là pour m'apaiser. Il est à la maison, au théâtre, je serais incapable d'écrire.
Est-ce que vos enfants ont le droit d'y entrer ?
Oui, ils y entrent, ils s'installent, ils colorient, je leur ai installé une table. Ma fille, maintenant, elle y est presque toujours pour faire ses devoirs quand je ne suis pas là. Comme là, je suis sûr qu'elle y est en ce moment. Mais j'aime beaucoup sa présence, je lui ai installé des fils pour qu'elle puisse brancher son ordinateur. Mais je lui demande des choses très très simples. Je dis, la porte doit rester fermée. Toutes les pensées que j'ai, je ne veux pas qu'elles sortent. Ensuite, je lui dis, tu ne manges pas d'orange dans le bureau parce que sinon l'odeur devient trop prégnante. Et je ne veux pas sentir d'odeur de nourriture dans le bureau. Tu peux manger des choses qui ne sentent pas, mais je ne veux pas le savoir, je ne veux pas avoir les traces. Tu dois nettoyer, tu dois ranger. Donc ce sont des règles qu'elle aime bien parce que ça nous rend complices, comme si on préservait un fantôme ensemble.
Ah, c'est super intéressant, mais il parle de ne pas laisser la trace des odeurs. Mais alors, bien sûr, l'odeur de sa propre fille, elle doit sentir.
Elle doit sentir aussi.
Non.
Mais je me demandais si dans la création, justement, quand on écrit, si une odeur prenait toute la place. Par exemple, en cuisine, il y a certaines épices comme ça, dont on dit qu'elles sont assassines, puisque le cumin, par exemple, va absorber tous les parfums si on ne sait pas le doser. Est-ce qu'il y a des odeurs comme ça qui vont bloquer la création et vous emmener sur un chemin sur lequel vous ne voulez pas aller?
Ah non, en fait, moi, je suis pas du tout difficile. Je peux écrire presque dans la rue, dans le métro. En fait, je peux écrire partout. Donc, quelle que soit l'odeur qui m'entoure, voilà. Donc, il peut y avoir l'odeur de l'orange. Hein.
Orange et billard, peut-être. Ryoko, il y a de nombreux personnages. Alors, est-ce que ce sont des doubles de vous? Je ne sais pas. Il y a de nombreux personnages dans votre livre qui s'habillent d'odeurs. Les odeurs les incarnent. Elles sont nues, sans odeur. Elles n'existent pas. C'est une conception qui vous vient d'où ?
Alors, je pense que non seulement on s'habille d'odeur, mais aussi parfois on se métamorphose. Parce que, par exemple, encore une fois, la vue est un sens en fait qui nous apprend la distance. Je vous vois, Clémence, parce que vous n'êtes pas moi et que vous êtes à distance. Alors que, par exemple, je ne me vois pas. Je ne vois pas mon propre visage parce qu'il est collé à la hauteur de mes yeux. Alors que pour qu'on sent quelque chose, il faut qu'il y ait une sorte de fusion. Parce que ce sont des particules olfactives qui entrent dans vos narines, qui frappent la porte. Et donc, à partir du moment où on sent quelque chose, notre corps est en train de devenir cette chose qu'on est en train de sentir.
Elle est annonciatrice aussi, cette odeur.
Oui, donc ce n'est pas seulement mes personnages, je pense que c'est le cas de tout le monde.
Un de vos personnages s'habille d'odeur, elle est nue sans odeur, et surtout elle va faire attention pour séduire, rencontrer l'homme qu'elle veut rencontrer. Elle veut s'assurer que l'odeur va lui plaire. Et elle a l'habitude, avant de rencontrer les gens, de mettre une odeur, de porter une odeur qui va leur plaire ou qui va les convaincre d'emblée que c'est une personne agréable.
Ah oui, oui, oui. Alors, ce personnage, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai un attachement particulier parce que, en fait, c'est une trilogie qui se situe au milieu du livre dans lequel je vais parler de la libération, de l'idée d'une identité. Parce qu'à ce moment, on porte un seul parfum pour renforcer un peu comme voilà l'identité, enfin pour dire que moi je sens comme ça, alors qu'on peut être multiple, qu'on peut porter en fait des parfums différents tous les jours. Et puis quand je parle de parfum, je parle pas de parfum comme produit, ça peut être juste l'eau,
des fragrances,
voilà,
des odeurs,
oui, que vous mettez un peu de fleurs dans votre eau et que vous faites bouillir et puis vous prenez le bain avec ça, et puis voilà, ça peut devenir des fleurs différentes tous les jours, qui ont des caractéristiques tous les jours, et donc qui vous permet de rencontrer, en fait, quand je parle de ce personnage, c'est pas juste pour séduire, mais pour avoir des vraies rencontres tous les jours, pour avoir des expériences inouïes tous les jours, et c'est possible.
Mais vous changez de parfum souvent vous-même?
Ah oui, selon les... En fait, je pense à la personne que je rencontre. Ben, aujourd'hui, j'ai pensé à vous, Clémence.
Alors,
et alors, je porte le parfum d'iris.
Le parfum d'iris. En plus, c'est la saison de l'éclosion des iris dans
voilà.
les jardins en ce moment, en tout cas de ce côté du monde.
Voilà.
Ce qui est intéressant aussi dans ces créations de parfums, c'est que vous avez travaillé, effectivement, avec un parfumeur. En
ah
quoi
oui.
ça a changé, si ça a changé votre écriture?
Alors, je n'avais jamais porté de parfum jusqu'à l'âge de mes 45 ans. Et aussi parce que pour travailler en fait, dans la cuisine, porter un parfum, c'est dérangeant. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les sommeliers, pendant qu'ils travaillent, ils ne portent pas de parfum, hein, sauf les dimanches. Mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de points communs entre le monde du parfum et le monde de la cuisine, parce que qu'il y a des odeurs en fait qui sont très bien et qui sont le cas aussi parfois pour les associations des deux ingrédients, par exemple dans les plats. Et je pense qu'apprendre sur les parfums, apprendre surtout sur les associations des parfums, parce que souvent les ingrédients de parfum viennent de la nature, comme les ingrédients de la cuisine, et peuvent être inspirantes même pour la cuisine. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, qu'il y a finalement pas mal de chefs qui sont amateurs de parfums.
De parfums également.
Ouais.
Je suis un coureur à pied, marathonien à l'occasion, et j'ai découvert mon plateau et il m'a soufflé plein de secrets, plein d'odeurs, plein de goûts. Si je vous raconte comment j'ai rencontré la Reine des Prés, j'aime bien la raconter, cette histoire. C'est, je cours dans une pâture, je peux vous dire l'endroit, le ciel était couvert, donc les odeurs étaient très présentes. Puis à un moment donné, je suis presque agressé par un parfum, ça me suffoque. J'ai dit, mais pas possible, il y a quelqu'un à l'oreille du bois qui m'attend là. Parce que vous savez, la Reine des Prés, c'est un parfum d'amande amère très puissant. Je me retourne, personne, je comprenais pas. Souvent je suis seul dans ce bois, j'ai dit, mais c'est pas possible, cette dame elle n'est pas par là. Et donc je fais le tour de la pâture, de l'endroit là, et puis je rencontre un champ de Reine des Prés avec un parfum. Oh, ça m'a transcendé.
C'est comme des flocons un peu, la Reine des
oui,
Prés,
oui,
c'est
oui,
une
oui.
fleur qui est très cotonneuse.
Oui, oui. Et donc je l'ai repéré, je l'ai relevé, je me suis fait accompagner pour l'identifier. C'est venu comme ça dans la cuisine. Alors après j'ai joué un peu le petit chimiste, parce que dans mes premiers temps dans la cuisine j'aimais bien jouer le petit chimiste. Je voulais savoir comment on pouvait arriver à fixer le parfum. Et donc j'ai rencontré l'oseille, j'ai rencontré l'érythrone, j'ai rencontré plein de choses comme ça. Et alors quand je vous disais qu'elle m'a soufflé des... Elle m'a guidé un peu la nature. Quand vous courez, mettons l'automne, enfin, mois d'août, mois de septembre, et que vous goûtez les mûres de ronce, mais vous prenez celles qui sont baignées de soleil, parce qu'elles sont bien meilleures. C'est comme ça que la nature est arrivée petit à petit.
Michel Braz, vous le connaissez, cette rencontre avec la Reine des Prés, est-ce qu'elle est assez emblématique aussi de la cuisine de Michel Braz et des odeurs dans la cuisine?
Oui, c'est ce que je trouve extraordinaire de cette histoire que j'ai entendue moi-même lors d'un dialogue que j'ai fait avec lui, c'est que, en fait, c'est l'odeur il ne court pas après l'odeur. C'est l'odeur vient de son dos, donc c'est quelque chose. Il y a une sorte de surprise. C'est comme si l'odeur lui tapotait son dos et dit alors, je suis là, retourne-toi.
Tout à fait. Cette fragrance, elle va incarner des gens. Elle incarne la vie. Vous parlez aussi d'un peuple, les onges. Et de cette cosmologie, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot?
Oui, parce que en Europe, on a souvent méprisé en fait ce sens qui est l'odorat, mais les anges donc est un tribut dont l'univers, la cosmologie tourne autour de l'odorat, en fait, qui permet de faire le voyage initiatique à ce moment-là. Par exemple, les jeunes hommes, donc il faut être marié, confie son odeur à son épouse et pour qu'il puisse partir à l'au-delà. Et à son retour, l'épouse lui redonne son odeur, enfin son odorat, pour qu'il puisse rentrer dans le monde réel, par exemple. Et donc, il y a toute une histoire, mais magnifique, finalement, autour des odeurs, donc bien des cultures et des civilisations. En fait, c'est surtout en Occident qu'on pense que le monde tourne autour de la vue.
Est-ce qu'on ne les a pas oubliées, ces odeurs, parce qu'elles étaient bien présentes, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'Antiquité?
Bah oui, voilà, oui. Non, mais tout à fait, parce que quand on regarde Rome antique, grec antique, par exemple, on portait le parfum à chaque membre de corps, il y a 4 parfums différents. Après un banquet, par exemple, tous les convives portaient le même parfum pour, avant de sortir du banquet, pour dire qu'on a eu la même expérience. Les spectacles étaient parfois parfumés. Donc il y avait, mais vraiment, je pense que même l'Europe, dans l'Antiquité, pensait beaucoup au parfum. Et puis, c'est vrai, le monde tournait aussi beaucoup autour des odeurs.
Et les rites également, puisque même dans la spiritualité, dans les différentes confessions, nous sommes accompagnés les parfums. Je pense par exemple au baptême. Il y a des huiles, des onguents, plein justement d'ajouts parfumés aux différentes cérémonies, et peu importe les confessions d'ailleurs.
Je pense que les parfums et les odeurs peuvent être facilement le porteur de symboles et l'histoire.
Alors sachez que si vous lisez L'Appel des odeurs, vous repartirez aussi le temps d'un chapitre avec une forêt sous le bras. Ça, c'est assez incroyable. On va se diriger vers la fin de cette émission déjà, mais je voudrais que vous nous parliez de la dernière odeur que vous avez envisagé de laisser à ceux qui vous auront connu.
Ah oui,
j'ai parlé presque au passé.
Oui, c'est vrai, parce que souvent, vous savez, on fait des blagues en fait sur le portrait qu'on va décorer lors des obsèques, mais on ne pense pas au parfum qu'on va diffuser pendant les funérailles. Clémence, par exemple, est-ce que vous avez déjà pensé au parfum que vous allez diffuser lors de funérailles?
Maintenant que j'ai lu L'Appel des odeurs, je vais me poser la question. Mais jusqu'à présent, je ne me l'étais pas posée.
Ben voilà.
Et voilà. Votre réponse alors?
Ah là, ça, il faut lire les derniers chapitres, parce que je ne laisserai pas. Alors voilà, dans la suite de l'histoire.
Absolument. Et puis, il faut lire tout le livre. Je peux peut-être juste donner quelque chose, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que le parfum choisi est un parfum établi. Or, c'est un parfum particulièrement vivant qui va vous accompagner jusque l'au-delà et qui nous permettra de nous souvenir de vous.
Tout à fait.
En sachant aussi que ces parfums, ces odeurs nous ouvrent l'appétit et nous rappellent aussi tous ceux qui nous ont accompagnés dans nos vies. Donc, c'est un très, très beau livre. Merci beaucoup, Ryoko.
Merci, Clémence.
L'Appel des odeurs, c'est publié chez POL, je l'ai dit, comme votre précédent livre d'ailleurs, que je recommande également. 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagne. Sentir, apparu aussi chez JBE Books, éditeur, chez qui vous goûtez le monde aussi pour un banquet des merveilles. Et puis Les Nuages, entre autres, et Incurie, aux éditions de l'Épure cette fois. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde, en direct ou en podcast avec l'appli Pure Radio, ou bien l'appli de votre choix. À partager comme il vous plaira. Un clin d'œil à Kwami Dosu et Eshma Ora qui nous ont laissé des messages. On adore vous dire merci beaucoup d'être laissés ici et là. Et très bonne semaine à tous. Afrique.